Chapitre 29. La voix du sabord. Katina passa le jour suivant sur le pont, au milieu du va-et-vient du déchargement, s'efforçant de réconforter sa chère Adèle par des paroles qu'il essayait de rendre gaies, mais qui venaient d'un cœur plein de tristesse. Il lui indiquait du doigt tous les endroits qu'il connaissait, la citadelle où il avait tenu garnison, le collège des Jésuites, la cathédrale de l'évêque Laval et la demeure d'Aubert de la Chesnée, la seule maison particulière qui fut restée debout après l'incendie de la ville basse. Tout le panorama de la vie canadienne se déroulait devant leurs yeux, le long de les trois sentiers bordés de palissades qui reliaient les deux parties de la ville. Les soldats, avec leurs chapeaux inclinés sur l'oreille, leurs plumets et leurs buffleteries, les habitants des côtes avec leurs grossiers habits de paysans, semblables à ceux de leurs ancêtres de Normandie ou de Bretagne, les jeunes seigneurs venus de France, reconnaissables à leurs lourds panaches, et par ce dandinement, par où ils pensaient copier la mode de Versailles. On pouvait apercevoir aussi de petits groupes de trappeurs, des coureurs de bois en veste de cuir, en guêtres à franges et en bonnets de fourrure ornés de plumes d'aigle. Ils venaient une ou deux fois par an dans les villes, laissant leurs femmes indiennes et leurs enfants dans quelques wigwams de l'intérieur. Il y avait là encore des peaux rouges, à la face tannée comme du vieux cuir, sauvages micmacs de l'Est, féroces abénakis du Sud, et au milieu de tout cela se distinguaient les robes sombres des jésuites, les soutanes noires et les larges chapeaux des récollets et des franciscains. La femme d'Amaury, habituée au calme de la rue parisienne, regardait avec étonnement la ville, les bois et les montagnes, et elle poussa un cri de frayeur lorsqu'une pirogue remplie d'algonquins, couverte de peaux de bête, avec des figures rayées de peinture rouge et blanche, passa comme une flèche devant eux, en faisant jaillir l'écume sous les pagaies. Puis le fleuve se teinta de rose, la vieille citadelle se fit plus indistincte dans le crépuscule, et les deux exilés descendirent tristement dans l'entrepont. Dans la cabine de Katina se trouvait un hublot qui laissait ouvert toute la journée pour renouveler l'air lourd et chaud provenant du voisinage de la cuisine du bord. Cette nuit-là, il lui fut impossible de dormir, il ne faisait que se tourner et se retourner sous sa couverture, songeant aux moyens de s'échapper de ce maudit navire. Mais en admettant même qu'il réussit à s'échapper avec sa femme, où irait-il? Tout le Canada leur était fermé. Les établissements anglais leur offraient, il est vrai, un refuge, mais seraient-ils sûrs d'y arriver? Si encore Amos Green leur fût resté fidèle, mais il les avait déjà oubliés. Et quelle raison avait-il, en vérité, d'agir autrement? Il ne leur tenait par aucun lien du sang, et sa famille l'attendait là-bas chez lui. Et pourtant, Katina ne pouvait croire à cette indifférence de son ancien ami. Il était en train d'agiter cette douloureuse question quand, tout à coup, un sifflement modulé qui dominait le clapotis de l'eau lui fit dresser l'oreille. C'était peut-être quelque batelier ou quelque indien passant le long du bord dans sa pirogue. Mais le sifflement se fit entendre de nouveau, plus impératif et plus pressant. Il se redressa sur son séant et regarda autour de lui. Cela semblait venir du hublot ouvert. Il y mit la tête, mais il ne vit rien que l'eau sombre et, dans le lointain, le scintillement des feux de la pointe Lévis. Comme il se laissait retomber sur sa couchette, quelque chose passa par l'ouverture et alla rouler sur le plancher de la cabine. Il sauta à bas, saisit une lanterne accrochée à un clou, en dirigea la lumière sur le parquet et aperçut un objet qui brillait. Il le ramassa et reconnut une petite broche en or. Il tressaillit à la vue du bijou. C'était sa propre broche qu'il avait donnée à Amos le jour où ils étaient allés ensemble à Versailles. C'était donc un signal et Amos ne l'avait pas abandonné. Il s'habilla en toute hâte et monta sur le pont. La nuit était noire et il ne pouvait rien distinguer, mais les pas réguliers qui se faisaient entendre à l'avant du navire lui prouvèrent que les sentinelles veillaient. Il se pencha par-dessus la lisse et chercha à distinguer dans l'obscurité. Au bout d'un instant, il aperçut vaguement la silhouette d'un canot. « Qui est là ?» demanda quelqu'un à voix basse. « Est-ce vous, Katina ?»«
Oui.
Nous venons vous chercher. »«
Dieu vous bénisse, Amos.
Votre femme est-elle là ?»«
Non, mais je vais l'éveiller. »«
Bien, mais d'abord prenez cette corde. Maintenant, remontez l'échelle. » Katina prit le bout de ligne qui lui était lancé et, l'attirant à lui, il s'aperçut qu'elle était attachée à une échelle de corde munie de deux crochets. Il la mit en place et descendit doucement dans la partie du navire réservée aux dames. Comme aucune surveillance n'était exercée de ce côté, il put arriver facilement près de sa femme, à qui il expliqua en peu de mots la situation. Moins de 10 minutes après, Adèle était habillée et, après avoir fait un petit paquet de ce qu'elle avait de précieux, elle se glissa hors de la cabine. Ils montèrent ensemble sur le pont et se dirigèrent avec précaution vers le côté où pendait l'échelle. Ils y étaient presque arrivés quand Katina s'arrêta soudain, étouffant un juron. Entre eux et l'échelle se dressait la haute silhouette toute noire du moine franciscain. Il n'y avait pas à hésiter. Repoussant Adèle, Katina s'élança sur le moine et le saisit à la gorge. Dans ce mouvement, le capuchon retomba en arrière et, à la place des traits ascétiques du prêtre, Katina reconnut avec stupeur, à la lumière diffuse d'une des lanternes du bord, les petits yeux gris et la figure ridée d'Éphraïm Savage. Au même moment, une autre silhouette apparut au-dessus de la lys, sauta sur le pont et le Français se trouva dans les bras d'Amos Green. « Tout va bien, » dit le jeune trappeur en se débarrassant de l'étreinte de son ami. Le moine est en sûreté dans le canot avec un gant en peau de daim dans la gorge. Il a voulu voir ce qui se passait pendant que vous étiez à réveiller votre femme. Cela lui apprendra à se mêler de ses affaires. Votre femme est là ? La voici. Dépêchons-nous alors, car il peut venir quelqu'un. » Adèle fut descendue dans la pirogue d'écorce, les trois hommes détachèrent l'échelle et s'y laissèrent glisser eux-mêmes au moyen d'une corde. Puis deux Indiens, manœuvrant silencieusement leur pagaie, poussèrent au large et remontèrent rapidement le courant. Une minute après, une masse sombre derrière eux, au milieu de laquelle brillaient faiblement deux petits points jaunes, était tout ce qu'ils pouvaient apercevoir du Saint-Christophe. Toute la nuit, ils pagayèrent sans une minute de répit. Côtoyant la rive sud pour éviter la force du courant, ils avançaient rapidement, car Katina et Amos étaient habitués depuis longtemps à cet exercice, et les deux Indiens travaillaient comme si leur propre vie eût été en jeu. Un silence absolu régnait sur le fleuve, interrompu seulement par le clapotis de l'eau contre la proue recourbée du canot ou le cri aigu des renards dans les bois. Quand, enfin, le jour parut, ils étaient loin de la citadelle et de toute trace d'habitation humaine. Les forêts vierges, dans leur merveilleuse parure d'automne, descendaient jusqu'au bord du fleuve, qui présentait en cet endroit un îlot entouré d'une petite bordure de sable jaune, avec un bouquet de sumacs et de mélèzes rouges, mêlant les riches teintes de leur feuillage. « J'ai déjà passé ici, » dit Katina. « Je me rappelle avoir fait une marque sur le tronc de ce grand mélèze, là-bas à gauche, la dernière fois que je suis allée avec le gouverneur à Montréal. » C'était du temps de Frontenac, lorsque le roi était le premier et l'évêque le second. Les peaux-rouges, qui, jusque-là, étaient restés assis sur leurs bancs, pareils à des statues de terre cuite, levèrent la tête à l'ouïe du nom de Frontenac. « Mon frère a parlé d'un grand chef blanc, » dit l'un d'eux. « Nous avons écouté le sifflement des oiseaux de malheur, qu'ils nous disent qu'il ne repassera plus la mer pour revenir vers ses enfants. »« Il est avec le grand-père blanc, » dit Katina. « Je l'ai vu moi-même dans son conseil et il reviendra assurément si son peuple a besoin de lui. » L'Indien secoua sa tête rasée. « Le mois des chaleurs est passé, mon frère, » dit-il en mauvais français. « Mais avant que le mois des nids soit revenu, il n'y aura plus un homme blanc le long de cette rivière. Ceux qui resteront seront derrière des murs de pierre, comme les renards bloqués dans leurs terriers. » « Et quoi ? Nous ignorons ce qui s'est passé ici. » « Les Iroquois sont-ils donc sur le sentier de la guerre ?»« Mon frère, ils ont dit qu'ils mangeraient les Hurons, et où sont les Hurons maintenant ?»« Ils ont tourné leur face vers les Eries, et où sont les Eries ?»« Ils sont allés à l'ouest, contre les Illinois, et qui pourrait trouver aujourd'hui un village Illinois ?»« Ils ont levé la hache contre les Andastes, et le nom des Andastes a disparu de la terre. » Et maintenant, ils ont dansé une danse et chanté un chant qui ne présage rien de bon pour mes frères blancs. Où sont-ils donc ? L'Indien embrassa d'un geste de la main tout l'horizon de l'est à l'ouest. Où ne sont-ils pas ? Ils sont nombreux comme les feuilles dans les bois et ils sont rapides et terribles comme le feu dans l'herbe sèche des prairies. Sur ma vie, dit Katina, si vraiment ces démons sont déchaînés, mes compatriotes auront besoin de faire appel au vieux Frontenac. Oui, dit Amos, je l'ai vu un jour que j'avais été conduit en sa présence avec quelques autres qui avions fait le commerce sur ce qu'il appelait la terre française. Sa bouche était aussi serrée qu'un piège à skunk et il nous regardait comme s'il avait eu envie de nos scalpes pour ses guêtres. J'ai vu que c'était un chef et un homme. C'était un ennemi de l'Église et le bras droit du démon dans ce pays, dit une voix au fond du canot. Le moine avait réussi à se dégager du gant de peau de daim et de la ceinture avec laquelle les deux Américains l'avaient bâillonné. Ramassé sur lui-même, il regardait le petit groupe avec des yeux noirs étincelants de rage. « Il a largué sa muselière, dit le marin. Je vais la lui remettre en place. » « Pourquoi l'emmener plus loin ?» dit Amos. « C'est un poids de plus à porter et je ne vois pas en quoi sa société peut nous être utile. Débarquons-le. »« Oui, là, au milieu, et puis nage ou coule !» s'écria le vieil Éphraïm avec enthousiasme. « Non, sur la rive. Pour le retrouver devant nous avec des soutanes noires et des habits bleus qu'il aura été prévenir ?»« Sur l'île, alors. » »« Très bien, il pourra aider ses camarades quand ils passeront. » Ils dirigèrent l'embarcation vers l'île et déposèrent à terre le moine qui ne dit rien, mais leur lança un regard de malédiction. Ils lui laissèrent une petite provision de biscuits et de farine qui lui permettrait d'attendre du secours. Puis, après avoir franchi un coude du fleuve, ils abordèrent dans une petite crique où les buissons d'érelles et de canneberges poussaient jusque sur le bord de l'eau et où le gazon était parsemé de forbes, de gentianes et de mélisses écarlates. Ils débarquèrent leurs provisions et déjeunèrent de bon appétit, tout en discutant leurs plans et leurs projets pour l'avenir. Fin de Les Réfugiés de Arthur Conan Doyle.